fermé sous-estime la colère du dollar.
Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères.
Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer.
Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison.
Dedans c'est dur, dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur. C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies.
À chaque jour suffit sa peine, moi je respire en paix.
Qu'avec les sirènes mon temps, ce soit à Fleury ou en Freine. Le temps fait la tête, et moi je traîne seul dehors.
Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres.
Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, enfin deux.
Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège.
Politiqueur dehors, petit frère emprisonné.
Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, on fera rire. Une heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle.
Parce que les parloirs sont souvent trop courts.
Pour les gars de Gitterfaille, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs.
Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Bonjour et bienvenue dans Casse-Muraille. Alors ce soir pour discuter, donc Casse-Muraille, l'émission contre les prisons sur Prune 92 FM tous les vendredis soirs de 18h à 18h30. Donc ce soir pour discuter ensemble, il y a Clara qui est dans le bocal.
Salut, salut.
Il y a Gaëlle.
Oui, bonjour.
Et il y a Zoé pour la première fois, bienvenue.
Merci, salut.
Moi c'est Tim. Alors, Casse-Muraille, du coup c'est une émission de radio pour les prisonniers, pour les proches de prisonniers, pour parler de ce qui se passe en prison, pour parler des luttes en prison, à la fois les luttes individuelles, mais surtout les luttes collectives quand on a l'occasion, et puis pour parler aussi des luttes qui se passent à l'extérieur contre les prisons, et bah, notamment vu qu'on habite à Nantes et qu'il y a un projet de prison à Nantes, eh ben, on parle régulièrement de la lutte contre le centre de rétention administratif qu'ils ont projeté de construire, mais qu'ils ne construiront pas, puisque la lutte s'organise, et puis et puisque donc il ne sera jamais construit. Voilà. Pour commencer, on a reçu une dédicace de Bilal, du coup, qui nous a demandé de passer un son de Samara, donc ce sera le morceau Zouk. Et c'est pour tous les frères au HEPS, du coup, que ce soit à Kharkov ou au CD.
بالارك كبارك سلبك موسيقى دو لا تو يبقى لك حزنونا كي شفوا بلاينا دو انا وقت عديدو انا مش نيكي فو انا فوقتي ما تسمست البس تحتي بسطولة تقول ولا ليه ما نسيتكم كي ما عملتو نسيتكم صرا فوقتي ما تسر ما تسفلحو ما سبين تسو بلما تحكي ما يعطيني فلوس من اللون ادي ماكش معايا وقت لي دار النوم عملت الخايب بعد تجيني تلوم نوم الحب الراكم مين بنيت السور تربية السوقينا في البرج نسوقينا موزيكا بلايك كيكتيمة نسر بيها تروفينا شوفكم من فوقينا تبع في اللوك هو لا ما تبدل تخليني كوبا والبوخينا برستنى يجيك الدور مينا على حقي راني نهور انا قصوتي وين ندور حرف فيكم حتى النور حب الريض نحب ندوب انا خالد تمام
وقتها تيتو انا مش نيكي فوق انا فوقتي ما تسمس تلبس تحتي بسطولة تقول ولا ليه ما نسيتكم كيما عملتو نسيتكم صرا فوقتي ما تسر ما تسف الحومة زبينة تسوق لو ما يهمنيش نايا قالوا قلو يحسب لي ابقالوا عادي برشا خويتي تشيلو فما سب اللي تحشيلو وانا نقول الريحة منين وين وتعب سنين ايه خدمة بالليل ايه ودموع الليل هبطو خسر وليت مريض شبيك تستنى بيه ريت راك تفل الزيت ايه تحبينا تير واحنا ماركة بستنى يجيك الدور مالا على حقي راني نقول انا قصوتي وين ندور حرب فيكم حتى نموت حب الريض نحب انتو بينا خالد تمارك ما ناظر تتبيت تعاركم بطرة وفكارك واسرارك مش نوف داركم كوكتك بلارك كبارك سربيك موسيقى دو لا تو يبقى لك حسدونا كي شوفوا ملاين الدو انا وقتا تيبو انا مش نيكي فون انا فوقتي ما تسمس تلبس تحتي بسطولة تقول ولا ليه ما نسيتكم ما عملتو نزيدكم صرا فوقتي ما تكسر ما تكسر الحومة زباينة تسوق
Partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.
Alors pour commencer l'émission, aujourd'hui on voulait parler de Daniela Klette, du coup, qui est une militante allemande qui a été arrêtée il y a un an et dont le procès s'est ouvert la semaine dernière.
La camarade Klette ainsi que deux camarades, toujours dans la clandestinité, a réussi pendant 34 ans à vivre libre au cœur de la bête, à l'abri des radars de la répression. Leur vie prouve que le soi-disant puissant État allemand n'est qu'un récit issu de leur propre propagande et n'est rien d'autre qu'un château de cartes. Malgré les technologies de surveillance ultra développées, les innombrables unités de répression spécialisées, les scientifiques et technocrates spécialisés et l'équipement militarisé, la camarade a réussi, durant ces trois décennies, à humilier en vivant au centre de Berlin, à Kreuzberg, l'un des quartiers les plus surveillés de la ville.
Donc ça, c'est un communiqué qui a été rédigé par Mariana et Dimitra, qui sont deux camarades de Daniela et qui sont actuellement emprisonnés.
Voilà, du coup, pour revenir un peu sur ce contexte, en fait, Daniela, c'est quelqu'un qui a vécu en clandestinité, comme on le disait, depuis 1993. Qui participait en fait à la RAF, du coup la RAF, la Rote Armee Fraktion, c'était un groupe de lutte armée en Allemagne. Les plus connus, c'est la bande Abadère, c'est la première génération qui ont été retrouvés suicidés à l'isolement. Enfin, c'est quand même une histoire sombre où personne n'y a cru, mais que enfin, déjà il y a eu la stratégie d'isoler les gens, de les isoler ensemble en huis clos. Du coup, ils ont commencé à se détester tout en ayant conscience que c'était une volonté de l'État de les niquer comme ça. Et un jour, ils ont été retrouvés, enfin, je veux dire, dans leur régime d'isolement super strict, nanan, il y a un flingue qui a été retrouvé et ils s'étaient tiré une balle, soi-disant. Voilà. Mais du coup, en fait, après leur mort, il y a eu d'autres générations qui ont repris le flambeau, en fait. Et le but de la RAF, c'était mener une lutte anti-impérialiste, anti-capitaliste, anti-patriarcale, au cœur de la bête capitaliste, quoi, qu'est l'Occident.
Mais du coup, ils faisaient quoi comme genre d'action ?
Dans ces trucs de lutte armée, il y avait de la guérilla, il y avait du braquage de banque pour financer des trucs, pour financer leurs actions, leurs campagnes. Et voilà, il y a des revendications autour de la tôle, il y avait des entreprises qui ont été attaquées, il y a des patrons qui ont été tués pour... Enfin, c'était aussi le mode d'action, quoi, de à un moment faire polémique et de dire, mais en fait, est-ce que le patron là, qui vit grassement du travail de ces milliers et de des milliers d'employés, quoi, et de la valeur ajoutée en fait que ces gens produisent, que eux ils crèvent la bouche ouverte en étant crevés après leur journée de travail, tandis que les patrons vivent dans le luxe. Et du coup, de dire en fait ces exploiteurs là sont des assassins finalement, ils tuent les gens à petit feu.
Oui, c'est ça. Et entre 1970 et 98, il y a eu 54 morts et 200 blessés, du coup.
D'accord, ouais.
Et donc, le maître mot de la RAF, c'est la résistance armée dans la lutte des classes. Donc, c'est vraiment ce que tu m'as dit auparavant.
Et voilà. Et du coup, Daniela Kletter, ben, on voulait... du coup, voilà, la semaine dernière, il y a son procès qui a commencé en Allemagne. Du coup, c'est des procès pour... tous les braquos qu'elle aurait fait entre 1993 et 2016, parce que bah, c'est ça en fait.
Oui, c'est ça.
On va peut-être revenir sur son arrestation en premier, mais...
Oui, carrément. Elle aurait commis 13 braquages du coup entre 96 et 99, pardon, et 2016. Et en fait, elle s'est fait arrêter suite à une sombre histoire. Des journalistes d'investigation ont retrouvé sa trace grâce à l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale. En fait, ils se sont fait passer pour des policiers, ce qui est illégal en Allemagne. Enfin, la police n'a pas le droit d'utiliser l'IA et la reconnaissance faciale. Et donc, grâce au fait de demander à ce fameux logiciel d'imaginer ce à quoi aurait pu ressembler Daniela actuellement, ils ont réussi à la retrouver sur Facebook avec une fausse identité italienne au nom de Claudia. Et de la dénoncer aux flics et tout ça.
Mais quand tu dis qu'ils se sont fait passer par des policiers, c'est qu'ils ont fait le rôle de la police.
Oui,
fait.
C'est ça.
Ouais, d'accord,
ouais. De manière totalement bénévole. Quoi.
Ouais, ouais.
En tout cas, à ma connaissance.
Ouais, mais c'est sûr qu'il y a un doute un peu autour de ça, parce que du coup, en fait, les flics en Allemagne n'auraient pas le droit d'utiliser ce logiciel. Enfin, c'est une application payante, quoi. Et du coup, il y a ce truc que le journaliste aurait pris la photo de la vie de recherche de Daniela, du coup, d'il y a 30 ans, des années 90, la rentre dans la base de données, et là, bip bip, au bout d'une demi-heure, ça sonne et ça dit « Regarde, là, cette photo dans le club de Capoeira, c'est elle. » En tout cas, il y a des chances que ce soit elle. Et du coup, hop, le journaliste aurait passé l'info au flic qui serait ensuite allé l'arrêter, quoi. Enfin, qui aurait, bah, je pense, un peu enquêté et essayé de capter son mode de vie. Et du coup, quand elle s'est fait cueillir chez elle, là, il y avait des armes, en veux-tu, en voilà, du cash, mais genre 240 000 euros, Kalachnikov, hein, en fait.
Des grenades, des pistolets.
Ouais. Moi, ce qui m'a surpris, mais je pense qu'elle a surpris beaucoup de gens aussi, parce que beaucoup de gens imaginaient qu'elle était en cavale à l'étranger, alors qu'elle était en plein centre de Berlin. Mais qu'en fait, avec sa fausse identité... elle paraissait intégrée en fait. Enfin, ses voisins la connaissaient. Elle se fondait un peu dans le. Elle était au club de Capoeira. Enfin, je pense que plein de gens la connaissaient, la côtoyaient sans connaître ses activités de lutte armée.
Oui, totalement. Elle passait vraiment pour une citoyenne lambda jusqu'à ce que la proc de Verdun annonce le fait qu'ils les ont retrouvés, quoi. Et ça, c'était le 26 février. De l'année passée, donc 2024.
Mais en fait, ce qui est un peu ouf dans l'histoire, c'est que du coup, s'ils l'ont retrouvé, c'est grâce à des moyens de le fait que les logiciels, l'informatique, ils se développent de plus en plus, ils soient capables de faire des trucs d'analyse d'images hyper rapides et hyper massives, et que ça, il y a genre pour l'instant, les législateurs sont tatillons à autoriser la police à l'utiliser, parce que même les législateurs, ils reconnaissent que c'est trop puissant, et que du coup, ça fait des armes pour la répression hyper vénères. Et puis en termes de droit, la surveillance, la vie privée et tout, c'est questionnant. Mais là, du coup, quand même, ça existe, ces logiciels-là. Et donc là, c'est des journalistes qui les utilisent et qui les fournissent à la police. Donc au final, ça a fini dans les mains de la police.
Oui, ça s'inscrit totalement dans la logique de surveillance de masse et là, du travail journalistique, en fait. C'était vraiment une chose qui était super bien rodée. Et je trouve que ce récit de vie, en fait, il rentre vraiment en corrélation avec tout ce qu'on voit en termes de reconnaissance faciale, en termes de loi de sécurité globale, qui est passée pour les JO, en fait. Et on voit qu'en fait, même actuellement, en France, aujourd'hui, les caméras qui ont été installées pour les JO, elles sont toujours d'actualité et elles fonctionnent toujours. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout près de disparaître, quoi.
Et du coup, les caméras dont tu parles, c'est des caméras de surveillance biométrique qui donc sont, c'est des caméras qui filment dans la rue et qui sont reliées à des logiciels qui, avec l'intelligence artificielle, analysent les comportements de chacun. Et donc, classe, qu'est-ce qui est un geste ou un ton de voix, une façon de bouger, de se poser, normal ou pas normal. Et si c'est pas normal, ça déclenche des alertes auprès de la police.
Oui, totalement. Dès qu'il y a une suspicion, hop, il y a une petite alerte qui est envoyée.
Carrément. Voilà. Enfin, je sais pas s'il y avait beaucoup de trucs en plus à en dire. On voulait quand même revenir sur les conditions du procès, ces conditions de détention. Enfin, du coup, là, en Allemagne, ça a titré en mode « ça y est, une terroriste a enfin été arrêtée, nan, 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 nan. » Bon, ce qui est un peu le jeu de s'attaquer à l'État impérialiste et que, du coup, l'État revient, revient nommer les gens, discréditer les gens, ne pas parler de leur action, les montrer comme des sanguinaires, alors qu'en fait, il y a une pensée politique derrière. Il y a des trucs qui sont dits quand même en termes de... Oui, on a le recours à la violence dans un système qui est ultra-violent et qui est ultra-violent vers une catégorie de population. Et du coup, pour moi, quand même, il y a cette question de venir discuter de la violence du système versus la violence des individus et dans un but, en fait, de libération globale, de révolution, quoi.
C'est ça. Et sous prétexte de cette fameuse violence, ils ont mis en place tout un système très sécuritaire pour assurer le procès et nuire à toute tentative d'évasion, quoi, pendant le procès. Ils ont mis Daniela Cléteux dans une salle spécialisée, sécurisée de la cour d'appel pour le procès. Et pour les mêmes motifs, en fait, ils lui ont interdit de recevoir la visite de ses soutiens ou des anciens membres de la RAF. Et,
en prison, tu veux dire?
Oui.
Ou au procès?
Non, les deux.
Bah, ça fait penser un peu... Enfin, ça, ce truc de cloisonner, là, c'est ce qu'en France, ils font avec l'antiterrorisme et quand les gens sont arrêtés et poursuivis pour du terrorisme. Ou Mohamed Amra aussi, qui est dans des conditions de cloisonnement. Enfin, on ne peut même plus dire d'isolement, là. C'est complètement hermétique, quoi.
Et voilà, et du coup, elle est à l'isolement. Mais après, je ne me souviens plus. J'ai lu vite fait ses conditions de détention, mais je ne me souviens plus, mais... En tout cas, c'est un régime très strict, un régime où... Bon, c'est de toute façon une élimination sociale, quoi. Peut-être on voulait finir par une citation. T'avais un truc à rajouter.
J'avais une question. Du coup, elle était en clandestinité, là, depuis... j'ai oublié la date, mais... elle a commencé comment, sa cavale? Elle était en prison, elle s'est évadée, ou...
Non, je me souviens plus. Il me semble qu'ils ont failli se faire choper sur un truc. Ou peut-être ils ont retrouvé de l'ADN sur
c'est ça, en fait,
une prison qui a été attaquée.
Elle a dû s'évader suite à l'attaque qu'elle a fait contre la prison de Darmstadt. J'ai peur de mal prononcer.
Non, c'est bien, c'est ça.
Suite à ça, du coup, actuellement, on lui reproche du coup le fait de partir en cavale et les braquages qu'elle a pu commettre lors de sa cavale pour la financer, cette fameuse cavale. Et aussi trois autres attentats entre 90 et 93. Sur une banque, sur l'ambassade des États-Unis et sur cette fameuse prison. Et ce qu'on lui reproche, en fait, c'est le fait qu'on ait retrouvé son ADN suite aux deux premières attaques via des mèches de cheveux dans la voiture.
Ok.
Merci pour cette histoire. C'est un peu ouf de se dire qu'on peut vivre tant d'années en clandestinité encore dans les États hyper répressifs occidentaux.
Vous aviez parlé d'une citation que vous vouliez faire ?
L'institution est en train de statuer sur ma culpabilité en termes juridiques. Pour moi, à défaut de culpabilité, la question qui a mobilisé et continue de mobiliser des millions de personnes est la suivante. Comment empêcher la guerre mondiale, les déplacements forcés, l'exploitation, l'oppression patriarcale et raciste, la pauvreté et la destruction écologique totale ?
Et du coup, ça, c'est une lettre qu'elle a écrite à ses camarades, parce qu'il y avait une conférence la conférence Rosa Luxembourg, qui était à Berlin au mois de janvier. Du coup, c'est une lettre publique qui a été lue pendant cette conférence.
Toujours les mêmes envies. Tout le monde, tout le monde s'est dit, putain, je rêve de ça, si la vie me l'offrait, j'aurais sûrement moins de mecs à coffrer. Tu sais, la nuit c'est différent, tu croises moins de regards souriants. Avec nos vies de chien, y'a quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim, rien n'est prêt de changer, sauf les gueules des bouffons sur les puits. Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe. On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde. Pas de modèle, on essaie tous de se faire une place. Si Dieu veut, nous aussi un jour on sera en...
La nuit les yeux sont braqués, poursuivis par la baquée. Faut marquer des points pour l'amour du risque. Aujourd'hui c'est clair, la vie c'est risqué. À tous les coins de rue y'a un flic planqué. Les jeunes n'ont plus rien à foutre, pensent à estanquer. Le soir les loups sortent de leur tanière, on le visse la manière, partent en balade. Un BM, y'a pas de salade, un bon plan de magasin de sport, c'est parti pour la cascade. Une patrouille de sécurité veille, le coup se fera plus tard. Pour l'instant ça bombarde, à la dardar motus, mission, faut exploser des radars. 220 sur l'autoroute, même pas le cafard. J'irai plutôt qu'ils se marrent en fumant des pétards. C'est l'heure de se rassasier, direction le centre-ville sur le chemin, quelques belles filles. Il paraît qu'avoir une grosse voiture ça les attire. Tire le frein à même pour le délire. Dans l'action un petit sourire, pour savoir s'il y a bon y'a pas pire. Que des sans pitié partis pour un fou rire. Viens, mais elles doivent partir et eux ont un travail à faire. Ils doivent manger, ça leur donnera des forces pour le danger d'entrer. Les fonds veulent tout saccager, brûle des feux, ça va mal se passer. Les flics vont les obliger de se ranger, rien à perdre. Ils veulent leur échapper, pas moyen de les tromper. Serrer trop près, appuie sur le champignon pour pas se faire attraper. Encapé, l'entrée d'autoroute la plus près, pas de chance, un barrage ça met la rage. Plus de magasins de sport, la nuit au poste. L'amour du risque, gars, dans un monde critique.
Avec nos vies de chien, y'a quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer, sauf les gueules des bouffons sur les puits.
De même que mes potes, j'vois toutes mes yeux rouges sang. Le décor douche sort et louche comme mes gars, faut pas que j'bouge sans. La nuit le monde change, Dieu, et nous en zone sans enjeu. J'suis aux anges en disant que j'viens de là où les gens sont dangereux. Entre amoureux du risque, on se comprend. Avant que tu risques, je dis, personne en classe l'apprend. Sans gel ni gère, la nuit, on nuit aux jambes, petit commando. Chacun se dit l'argent, faut que j'en mange comme Belmondo ou Jean-Paul Gaultier. Plus rien à foutre, mec, tant qu'il y a le pactole, nique tout. Y'a pas que toi qui lutte dans le béton. Bien dans le coma, l'ami des mômes où ils crament, tout comme à Singapour ou Miami. Une fois la lune pleine, tous pleins d'alcool. Méga déconne, décolle, coin se déconne. Anti-con des depuis l'école. Au QG, on se colle, des feuilles fument, puis ça traîne des filles par alcool. En gros, on dit non, mais on s'y colle.
Chaque quartier compte son QG, ses tripots, ses jeunes en mandat, dépôt, les nerfs à fleur de peau. Le manque de peau, on connaît le topo ici-bas. On y est habitué, comme ces hommes en la Bible qui tuaient se font innocenter après ça. Dur d'avoir foi en la justice, on s'enliste, elle le Titanic. La misère se répand de façon titanesque. Dis-toi que ce qui m'arrive, je l'ai pas choisi, rester docile. Non, mais tu veux pas que je me laisse baiser aussi ici. Pour les parents, y'a vraiment de quoi s'en faire. Même les jeunes les plus braves ont tous leurs entrées en enfer. On représente pour l'envers du décor. Je rappe au nom des miens et dès demain je continuerai encore. Ça rapporte pas des masses, j'avoue, je fais ça par amour du risque. On reste les mêmes dans la vie comme sur disque. Au micro on lâche le grand jeu, le peps. Je prends conscience de l'enjeu, c'est fuir ma vie de kleps. Avec nos vies de chien, y'a quoi faire des histoires sans fin. La rue en fond, plus vrai que les infos du vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim et rien n'est prêt de changer, sauf les gueules des bouffons sur les puits. Si on s'en...
Dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59.
Et vous êtes toujours sur Casse-Muraille.
Et on vient d'écouter la Funky Family, l'amour du risque.
Et maintenant, on va partir un petit peu sur des infos. Alors, on a eu des mauvaises infos là pour ce matin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à la maison d'arrêt de Nantes-Carquefou, il y a des personnes qui se sont fait choper là à essayer de piloter des drones pour envoyer des choses à la prison. Apparemment, bah, c'était vers 1h du matin. Il y a la BAC qui est passée, qui les a serrés sur le coup. Donc, ils ont trouvé le drone et ils ont arrêté deux personnes. Donc, bah, on pense bien à eux. Je sais pas, j'imagine qu'elles doivent être encore en garde à vue. Mais bah, voilà, enfin, courage. Et autrement, moi, je voulais vous parler du procès de Marine Le Pen. Bon, désolé si vous avez écouté les médias déjà cette semaine, vous avez déjà dû beaucoup, beaucoup en entendre parler. Donc Marine Le Pen et 23 autres membres du Rassemblement National ont été condamnés lundi pour le détournement de 4 millions d'euros de fonds européens par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. Depuis des années, Marine Le Pen dénonce le laxisme de la justice, les aménagements de peine et les trop nombreuses possibilités de recours pour les petits justiciables. En 2013, sur la chaîne parlementaire, elle s'insurgeait aussi du manque de sévérité contre les politiciens. C'était au moment où le socialiste Jérôme Cahuzac était accusé de fraude fiscale. Je vous propose d'écouter ce que Marine Le Pen déclarait à l'époque.
Ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même.
Alors justement, est-ce qu'il faut un référendum sur la moralisation de la vie publique, politique, comme le souhaite par exemple François Bayrou ?
Mais, oui, il le faudrait, mais que l'opposition réclame ça, c'est normal. Mais il me semble quand même qu'encore une fois, le Parti Socialiste a tous les pouvoirs. Et puis pour voter quoi ? Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Mmh. Ah bon ? Et pourquoi pas le reste ? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme ? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics ? Pourquoi pas pour emploi fictif ? Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat ?
Et voilà, donc c'était Marine Le Pen en 2013 sur la chaîne parlementaire. Donc dès l'année suivante, Marine Le Pen, qui avait pourtant juré d'être irréprochable, a mis en place le système de financement de son parti par des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. Et ce n'est que cette semaine qu'elle a fini par se faire condamner. Elle, qui réclamait l'inéligibilité à vie, n'a finalement été condamnée qu'à 5 ans d'inéligibilité. Elle a aussi été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans aménagés en bracelet électronique et 2 ans de sursis. Que croyez-vous qu'elle aurait déclaré si un escroc qui ne ferait pas partie de la bourgeoisie avait été condamné à 2 ans de bracelet électronique ? Il y a fort à parier qu'elle aurait vilipendé la mollesse de la justice laxiste, ironisé qu'en plus il va avoir des remises de peine et que la justice devrait être plus sévère. Et qu'est-ce qu'elle a dit suite à son procès ? Exactement le contraire, que la justice a voulu avoir sa peau, qu'elle est victime de l'intransigeance des juges. Il y a même eu le soutien de toute la classe politique réactionnaire en France et même à l'étranger. Marine Le Pen a obtenu le soutien sans réserve de Donald Trump, d'Elon Musk, du vice-président J.D. Vance, de Viktor Orban, premier ministre hongrois, de Wilders aux Pays-Bas, de Bolsonaro au Brésil. Et oui, Zoé, tu avais trouvé d'autres gens aussi que... Ouais, en vrai, la liste, elle est très longue.
Oui, c'est ça. À l'international, je crois que tu as fait un peu le tour, mais on a quand même eu le droit aussi à Bardella, à Marion Maréchal, à Éric Ciotti, à Éric Zemmour en France.
Voilà, en fait, c'est toujours c'est ce qu'on dénonce régulièrement à Casse-Muraille. C'est aussi le deux poids, deux mesures. C'est qu'en fait, les mots sont jamais trop sévères là, pour accuser les délinquants qui seraient... qui serait la lie de la société et tout ça. Il y a tout le temps quelque chose de très insultant, de très méprisant et tout ça. Et d'un seul coup, quand ça touche la classe politique, c'est scandaleux, c'est incroyable, machin. Les juges ont aucun respect et tout. Alors que pourtant, il y a quand même des grandes différences de peine. Alors, c'est déjà beaucoup. Nous, on n'est pas du genre à dire que ça va, 2 ans de bracelet électronique, c'est rien. C'est beaucoup. Mais c'est très peu comparé à ce que se prennent tous les autres. Enfin, je ne sais pas, là, en prison, il y a plein de gens qui sont en prison pour avoir détourné de l'argent ou pour des vols et qui ont des peines, mais vraiment
sans. C'est toi qui me racontais pour des faux tickets de bus, non, des amendes de train. Les gens se retrouvent en 11 pour ça, par exemple.
Ça y est, plusieurs, oui. C'est sûr. Donc voilà. Après, on avait envie d'élargir aussi, parce que là, en ce moment, on parle de Marine Le Pen, mais bon, il y a Sarkozy qui est un peu dans la même histoire. Enfin, il y a un traitement différencié quand c'est la classe politique. Moi, à propos de ça, je voulais aussi vous faire écouter un extrait de fiction. C'est un passage de la série Le Baron Noir qui est passé sur Canal+.
On n'a rien volé, Joël. On est des militants.
Si on met les mains dans la merde, c'est pour aider les gens. C'est bien ce qu'on fait, on peut se regarder dans la glace.
Et on va faire comment, là ?
Voilà le sujet. Venir nous taper la veille du deuxième tour, ça t'inspire quoi ?
La droite essaye de nous salir pour refaire son retard d'ici dimanche.
Exactement, c'est un coup politique. Ce sera un piège de répondre par de la politique. La perquisition, toi, c'est pour m'atteindre le G, moi. On joue la présidentielle. Faut monter un mur entre moi et l'office. Couper les liens. Pas serment jusqu'à moi.
Mais non, mais c'est impossible, c'est toi l'administrateur.
L'administrateur, c'est loin. C'est pas la compta. Il peut y avoir un coupable isolé.
Non mais attends, tu veux quand même pas que ce soit...
C'est toi le trésorier. T'avais accès au compte, au fichier, à tout, au coffre.
Mais je sais pas, imagine qu'ils aient un témoignage détaillé.
On s'en fout qu'il y ait plusieurs versions. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de preuves. Que les flics n'ont aucun point d'appui. Et tu vas faire ça très bien. Tu vas les rendre dingos. Tu vas les dégoûter des flics. On n'a pas le choix. Si la gauche perd, nous on tombe. Faut que tu te sacrifies. Si tu prends tout sur toi, c'est un fait divers. Aucun effet sur l'élection.
J'ai pas envie d'aller en taule, Philippe.
Mais t'iras pas en taule. Pas en taule parce que t'as emporté 30 000 balles. Surtout si on gagne. Comment tu vas aller en taule si on est au pouvoir ? C'est une opération politique, je te dis. Ils veulent nous salir. Ils s'en branlent de toi. Réfléchis avec ta tête, pas avec ta trouille.
Voilà, c'était un extrait de la série Baron Noir. Et enfin, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Là, mais je pense que c'est exprès. Il y a un côté cynique là, dans, des réalisateurs de la série, de dire bah, on ne va pas en taule parce qu'on a emprunté 30 000 euros. Et c'est le décalage énorme là, entre des gens qui sont au pouvoir, qui sont eux-mêmes responsables de, en partie quand même, de la répression qui s'abat sur tous les autres, hein, et qui sont complètement en décalage sur ce que ça représente. Enfin, voilà. C'était ça que je voulais vous faire écouter. Sur Marine Le Pen, est-ce que vous vouliez réagir sur d'autres choses ?
Il me semble qu'on avait une petite discussion de se questionner autour du fait que est-ce qu'on doit se réjouir ou pas qu'elle se peine elle se prenne une peine de prison ?
Ouais, grave, bien fait pour sa gueule.
Mais que en fait on se disait aussi c'est se réjouir, ça vient, enfin en fait je pense que le fait qu'elle soit condamnée, c'est une façon pour l'état de droit de renforcer son mythe et de continuer à dire oui, vous voyez, la justice est juste, puisque même Marine Le Pen se fait condamner. Et que donc je sais pas si en fait ça empêche que les choses soient vraiment claires là, et donc je suis pas sûre que ce soit une bonne chose.
Ouais. Bah, c'est vrai que nous, on a un peu le discours quand même en général de dire que la justice, en fait, c'est pas notre justice, c'est pas nous qui l'exerçons, c'est pas en notre nom et c'est contre nous la plupart du temps. Et du coup, on compte pas sur la justice pour régler nos problèmes et tout ça. Bah, c'est une discussion qu'on a régulièrement et même entre nous, ça fait débat un peu de temps en temps, parce que moi, j'ai toujours un peu un côté de me dire... moi, je soutiens pas la justice, je compte pas sur la justice, mais quand c'est les gens qui mettent la justice en place, qui l'exercent contre nous, qui se plaignent parce que on s'en sort trop bien avec la justice, que en fait on nous donne trop de remises de peine, on sort trop vite, on a trop de facilité pour faire des recours, pour faire des machins, en fait, quand c'est eux qui se font condamner, ben moi j'ai envie de dire bien fait pour eux, ça me fait ça à chaque fois en fait.
Bah oui, il y a une sensation de satisfaction, un peu de réconfort. Mais moi, je trouve que c'est une sorte d'illusion, dans le sens où ce traitement, on nous présente le procès comme quelque chose où il n'y a jamais eu de traitement de faveur, tout ça, et que c'est du coup exemplaire, que le procès de Marine Le Pen est super juste, alors qu'on voit même avec le fait qu'elle fasse appel, ce fameux procès en appel, du coup, se fasse à l'été 2026, c'est ça ? Et c'est des délais du coup super courts. Enfin, quel genre de personne lambda pourrait avoir ça ?
Ouais, c'est sûr. Et l'autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que du coup, elle a une peine de 2 ans ferme qui est tout de suite aménagée en placement sous bracelet électronique. Et au même moment, il y avait ça aussi dans les actualités. Là, les députés ont voté pour l'arrêt des aménagements systématiques de peine en dessous de 6 mois. et pour le fait de pouvoir mettre des courtes peines d'inférieur en un mois. Donc, dans le même mouvement, il y a Marine Le Pen, elle a 2 ans de prison ferme, c'est aménagé. Et en même temps, il y a un truc de dire, à partir de maintenant, les gens qui ont moins de 6 mois et qui bénéficiaient d'un aménagement systématique des peines de prison ferme, eh ben, ça y est, c'est fini. Et ça, j'avais un peu envie de discuter avec vous aussi de qu'est-ce que vous trouvez que ça implique, ça, le fait d'augmenter les courtes peines. Pourquoi on arrive là-dedans à ce moment-là et qu'est-ce que ça change Ça vous fait pas réagir.
Moi, ça si, me faisait... si, non, mais ouais. Moi, je veux bien réagir. Je sais pas exactement, tu vois, je me suis pas vraiment penché sur la question et tout, et je sais pas dans quelle optique ils ont fait ça. Du coup, c'est ça que je trouve un peu difficile, mais enfin, je sais pas, moi, je me dis, c'est quand même le but là de, bah, de peut-être de renforcer la menace de la prison, et en fait de dire que même pour des banalités, tu peux te retrouver 15 jours au trou. Alors que, enfin, pour moi, ça me fait penser plutôt à des peines que j'avais l'impression de capter petit. Je sais pas que les gens ils partaient pour une semaine, 2 semaines en prison et tout quoi, mais déjà dans des trucs à l'ancienne quoi, vraiment vieux. Enfin je sais pas, ouais je sais pas. Et du coup j'avais l'impression que ça se faisait plus trop.
Bah, c'est que oui, c'est légalement c'était systématiquement aménagé, une courte peine a été systématiquement aménagée. Et du coup j'ai l'impression que les juges distribuaient plus de peine de 3 semaines, puisqu'ils savaient qu'elle serait aménagée systématiquement. Après, bah, j'ai l'impression que du coup, avec des gens qui... en fait, ça ne fait pas qu'il va y avoir plus de courtes peines au lieu de longues peines, mais plus de gens qui auraient été en aménagement de peine ou en peine alternative qui vont se prendre des peines de ferme. Et après, concrètement... Il y a aussi un truc que la justice n'a pas toujours les moyens de travailler dans autant de répression et d'autorité qu'elle le voudrait, et que des fois les courtes peines elles sont pas mises à exécution. Donc, si ça se trouve, en fait, les gens ils vont juste se prendre 3 semaines de placard et au lieu de bracelet, et juste la peine ne sera pas exécutée, tant mieux.
Ouais, faut espérer. Mais bah, c'est sûr que c'est des mesures qui vont quand même vers plus de répression. Enfin, en fait, c'est comme ça que c'est justifié officiellement. Hein. Ils l'ont vraiment dit comme un truc répressif de restaurer l'autorité de l'État à tous les échelons du magistrat, du policier. Enfin, c'est vraiment comme un truc sécuritaire. Mais moi, ça m'a questionné aussi sur pourquoi ça avait été enlevé, ces courtes peines. Alors, c'est sûr, il y a l'histoire du coup que ça représente d'enfermer les gens. Mais je me demandais aussi si ce n'était pas pour maintenir le caractère un peu exceptionnel de la prison, pour aussi augmenter le stigmate de la prison, parce que j'ai l'impression que c'est aussi le but de la prison, c'est de disqualifier des gens et de montrer les gens qui sont vraiment au bord de la société et qui sont disqualifiés par la peine infamante qu'ils reçoivent. Et que peut-être de faire plein de petites peines, eh ben ça banalise la prison et tout ça. Enfin, ça me posait des questions par rapport à ça.
Moi, je suis pas d'accord avec ce constat, puisque je pense que même si c'est des toutes petites peines qui se multiplient, ça va toujours être les mêmes classes de personnes qui vont être touchées par ces peines-là, et que donc ça va rester la prison comme un truc commun dans une classe et comme un truc stigmatisant dans une autre. Et il me semble, mais là je dis peut-être une énorme connerie parce que je ne me souviens pas bien, mais il me semble que c'est sous Taubira, ministre de la Justice, que cette mesure elle était passée, la mesure qui vient d'être déconstruite là, à l'Assemblée nationale, et que sous Taubira, bah, là, oui, elle avait un truc de un peu droit de l'homiste, là, de vouloir sortir du tout carcéral, et que bah, ça vient déconstruire sa volonté de sortir du tout carcéral. Mais sortir du tout carcéral, attention, c'était pas sortir du tout répressif, hein, c'était avec plein de peines alternatives.
Ça me fait penser à une citation de la RAF que j'ai lue là, qui disait « Exécutez vos juges, pas vos peines ».
Oui, et bah, peut-être qu'on peut se dire au revoir là-dessus.
Tout à fait.
Y avait des trucs à dire encore
bah, demain, il y a le festival Antikra à Beach, aux ateliers de Beach, de 14h à 2h du mat. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres trucs dans l'agenda, j'ai pas trop...
Je pense qu'on n'avait rien prévu d'autre à annoncer.
Il y a une manif pour la Palestine demain après-midi à 15h. appelé par Urgence Palestine.
Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine.
Mais non, on va se donner les contacts avant.
Ah, alors, d'accord.
Parce qu'on sera trop content de recevoir du courrier. Du coup, pour nous écrire, c'est à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. On reste toujours joignable par téléphone au 07 82 98 43 59. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Insta, Mastodon, Blue Sky. Et enfin, par mail, casse-muraille@riseup.net.
Et sur YouTube aussi, parce que ça peut être un moyen aussi facile de rentrer en contact en laissant juste des commentaires sous les vidéos. Ça permet aussi de réagir au contenu des émissions. S'il y a des imprécisions que vous avez vues, s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde, c'est aussi possible de laisser des commentaires sous les vidéos de notre chaîne YouTube, Casse-Muraille.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.